Bonjour à tous, ici Chantal Doré à la barre de cette 48e émission d'Au fil du temps qui se donne comme mission de vous présenter des êtres d'expérience et des spécialistes dans l'art de traverser avec grâce les étapes de la vie. Aujourd'hui, à quelques semaines de la fête des Pères, j'ai de grands hommes à vous présenter. D'abord, un duo d'entrepreneurs père-fils, puis un artiste multidisciplinaire magnifique, doublé d'un travailleur social dont les écrits ont une grande portée. Lors de la toute première émission d'Au fil du temps, le 16 juin 2020, nous avions reçu un père qui a joint l'entreprise fondée par son fils, soit Jean-Gilles et Jean-Philippe Caron de Protocole Trophée d'Exception. Aujourd'hui, nous explorons l'inverse, le fils qui a joint l'entreprise fondée par son père, Café Expert. Nous recevrons Hugo Bouchard et Daniel Beaulieu de Café Expert. Les deux seront présents au téléphone pour nous parler des défis de marcher dans les traces de son père et de réinventer le chemin maintenant que nous sommes en contrôle de l'entreprise. Donc, comment réinventer l'entreprise? Comment lui donner sa couleur? En seconde partie, nous accueillons un grand artiste qui sait faire valser les mots comme personne. Un poète slameur dont les mots contribuent à guérir les mots. Un travailleur social dont la lettre d'amour, en fait, la lettre s'appelle sa lettre d'amour aux petits gars qui seront de grands hommes, bien, elle a touché le cœur de plus d'1,8 million de personnes depuis qu'elle a été diffusée à Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada. David Goudreau, puisque c'est lui dont il s'agit, nous fait réfléchir également en musique avec un quatrième album, Le Nouveau Matériel, dont l'écriture est puissante. Vous le constaterez avec deux pièces que nous écouterons au cours de la prochaine heure. Pour le moment, place à une chanson qui est plutôt vieillotte, mais toujours bien de circonstances, une chanson de Serge Gainsbourg dont le titre se prête fort bien à l'entrevue que nous aurons avec nos premiers invités qui évoluent dans l'univers aromatique du café. Bien entendu, vous devinerez que couleur café ne porte pas vraiment sur cet élixir réveil matin. Alors écoutons cette poésie d'un autre poète majeur aux écrits un petit peu revendicateurs. Couleur café.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café de Serge Gainsbourg, bien entendu, une jolie introduction pour parler de Café Expert et d'un fils qui a appris à mettre ses propres couleurs après avoir acquis l'entreprise il y a déjà, je pense, 13-14 ans. Donc, nous parlons avec le fils, Hugo Bouchard, et le père, Daniel Beaulieu, de Café Expert. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, le premier qui nous a parlé, c'est Hugo, et le deuxième, Daniel.
Exact.
C'est ça. Bon, écoutez, ça fait longtemps que j'ai envie de vous recevoir à l'émission parce que votre histoire est inspirante. Je suis la page de Café Expert et surtout de la boutique Ma Caféine que Hugo a fondée. Je vois les posts intergénérationnels, je vois des photos aussi, Hugo, avec vos enfants, et je me dis, mon Dieu, quel sujet intéressant de parler de la relation père-fils, mais en affaires.
Ben, c'est une relation père-fils en affaires, veut pas, avec le temps, c'est plus que père-fils, c'est confident, c'est ami, ça renforce encore plus la relation.
Ah oui. J'imagine que avant de renforcer la relation, ça a dû la secouer un peu. Donc, je vais vouloir parler un petit peu là, de tout ce transfert d'entreprise-là, des défis auxquels vous avez fait face, les obstacles et surtout comment vous les avez traversés. Mais peut-être un petit brin d'histoire. Là. Donc, je vais m'adresser à Daniel. Parlez-nous un petit peu quand vous avez vu que Hugo semblait avoir de l'intérêt pour l'entreprise.
Hugo a toujours eu l'intérêt depuis la première journée qu'il est venu nous trouver dans l'entreprise il y a 20 ans.
Oui.
C'est un passionné, il étudie, il regarde ça. J'aurais pas souhaité qu'il fasse ça parce que c'est pas facile, la business. C'est pas facile. Mais je me suis dit, parce que moi, c'est un pionnier, je me suis dit, ils font peut-être pas toute la même chose que j'ai faite. Et donc, il va y avoir vraiment une continuité. Puis, ça a été un peu tout seul avec le temps. Puis, ça a été vraiment facile.
Ben, j'ai lu un petit
La chance que j'ai, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une continuité. Je l'ai toujours apprécié.
J'ai lu un petit peu dans certains articles qui portent sur votre duo qu'au départ, un petit peu comme des grains de café qui ne sont pas torréfiés, vous disiez que Hugo, au départ, il était très vert là, comme homme d'affaires.
J'avais un beau mot, madame. En réalité, quand on commence, on est tous verts. Bon, c'est pas où qu'on va, puis c'est la même chose pour moi il y a 40 ans.
Oui, c'est ça.
Mais j'étais pas mal jeune, j'avais 21 ans, puis... Oui. J'arrivais d'Europe, puis je me questionnais là, sur si j'avais travaillé un petit peu là-bas dans la restauration.
D'accord.
Puis j'arrivais ici, puis là, je savais plus ou moins dans quoi, quelle branche m'en aller. Puis j'avais travaillé un petit peu dans mes étés quand j'étais adolescent dans l'entreprise familiale, mais jamais à temps plein. Tu sais. Mon père m'a vraiment donné la chance de commencer. Mais tu sais, quand tu commences, puis tu dis, ben vas-y, il m'a donné la chance de faire vraiment là de m'épanouir dans l'entreprise, mais... quand tu commences et tu ne sais pas quoi faire, quand tu t'essayes comme tu veux, comme tu peux surtout. Fait que c'est normal, j'étais vraiment, vraiment vert. Puis même encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, pratiquement, ben, j'apprends encore. On n'arrête jamais d'apprendre dans le monde des affaires. Là.
Effectivement.
Dans la vie de tous les jours aussi, là, bien sûr.
Absolument. Ben oui, j'ai vu ça sur Facebook, Hugo, que vous avez eu 40 ans ces jours-ci. Joyeux anniversaire.
Merci, c'est gentil.
Et donc, qu'est-ce qui vous avait amené comme ça en Europe?
Quand j'ai fini mes études, j'allais travailler, tu veux pas, je voulais voir un peu le monde, voyager, fait que j'avais eu l'opportunité d'aller travailler dans un hôtel comme barman, pas loin en Angleterre.
Mm-hmm.
Puis là, ben, j'ai travaillé là-bas, puis à partir de là-bas, ben, j'ai voyagé. Quand je suis revenu aux sources, j'allais travailler dans différents domaines, mais, puis l'opportunité de travailler dans l'entreprise familiale, tu veux pas, Café Expert, à l'époque, c'était 5 ou 6 personnes.
Mm-hmm.
Puis je connaissais bien l'entreprise. J'avais toujours travaillé au sein de l'entreprise. Un petit peu pendant les étés, à chaque année, un mois ou deux.
Oui.
Mais c'était vraiment mon père. Il y avait souvent, je dis, c'est que l'entreprise, c'était un tronc solide. C'est un arbre.
Mm-hmm.
C'est un tronc solide. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des branches, le développement, le marketing, une nouvelle clientèle. On élargit le territoire. Puis l'entreprise, 20 ans plus tard, pratiquement 4 fois plus grosse. Là.
Moi, j'aime beaucoup votre formule, le tronc solide, rajouter des branches. Et à l'époque, quand vous étiez à faire des petits sauts de quelques mois, est-ce que vous le voyez, le côté dont votre père parle, que c'était pas facile comme business, puis que lui, il était tiraillé un peu de vous voir peut-être prendre la relève puis vivre des difficultés?
Ben mon père c'est un homme qui a pas peur d'aucun défi. Mmh. Fait que, il est toujours prêt à aider, toujours là, toujours prêt à foncer. Puis il veut pas, il a travaillé à plusieurs endroits, travaillé sur LG2, travaillé dans les terres à tabac, il a travaillé dans beaucoup de domaines avant d'être dans le café.
Okay.
Fait que c'est sûr que veut pas. C'est un domaine particulier, c'est un domaine extrêmement compétitif, les services de café dans les bureaux. Ça n'a pas été jamais facile, mais je pense que si ça serait facile, ça serait pas le même challenge non plus, là. Donc, tout le monde pourrait le faire. Pourquoi les gens viennent nous voir? Ben, c'est parce que c'est pas facile de faire ce qu'on fait, puis on le fait bien. Puis j'ai appris ça de mon père, d'être bien entouré, puis avoir des bonnes équipes, des bons clients. Je pense que c'est pour ça que les gens font affaire avec nous, parce qu'on fait ça bien. Tu sais.
Daniel?
On a un gros respect de la clientèle. Pas de clientèle, pas de business.
Ah ben oui, ça c'est clair. Et je sais que c'est ça, vous êtes présent dans les entreprises, les machines distributrices. Puis Hugues, vous avez amené aussi le côté boutique, là, avec la boutique Ma Caféine, des boîtes aussi gourmets que vous offrez. Daniel, comment justement vous le saviez que c'était pas facile? J'imagine il y a tout l'amour du père qui veut pas que l'enfant ait des difficultés, mais en même temps voit qu'il est prêt pour les défis. Comment on fait là, pour accorder de la latitude tout en sachant que l'autre va faire des erreurs qu'on a soi-même fait dans le passé?
Oui, je me rappelle les premiers temps qu'il a rentré. Je n'avais même pas le temps de m'en occuper de lui. Puis je ne savais pas quoi faire avec lui. Puis là, j'avais comme marketing, tout ça. Puis il a commencé, hein, un client, on va l'installer. Des fois, parfois, je sais qu'il va se planter. Mais il faut laisser faire. Il faut laisser faire. C'était pas bon client ou n'importe quoi. Ça ne marchait pas. On allait chercher du sous-vitrine. On les a replacés dans l'entrepôt. Puis après ça, teint d'eau. Puis plus ça va, plus tu apprends de la rentabilité. Donc, c'est officiel là, que ça ne vient pas du jour au lendemain. Là. Après ça, j'ai des ventes, tout ça. Puis, il faut être prêt. Je n'étais pas tout à fait prêt à m'occuper. J'ai dit, occupe-toi du marketing. J'en ai pas de marketing. Ouais. Mais comment j'aurais voulu m'en occuper? Je ne savais pas quoi faire. Mais vu qu'il y a l'instinct du lion, il a foncé.
Ben oui, j'ai vu ça, tripler le chiffre d'affaires en 6 ans avec les ventes.
Ben c'est sûr qu'il y a des paliers qui sont plus faciles. Là, de monter quand on a monté à 2.3, 2.4, ça a été quand même assez rapide. Après ça, l'autre palier, ça a été plus long un peu. Mais c'est beaucoup la confiance. Puis, tu sais, mon père est un peu humble là-dedans, puis c'est un autodidacte. Fait que quand c'est un autodidacte, facile l'apprendre par toi-même, mais c'est plus difficile de le montrer aux autres aussi.
Ouais.
Si on recule à l'époque, mon père il avait 50 ans, c'était sa troisième entreprise, c'était les années 2000, le concept du branding commençait aussi, c'était différent aussi, puis c'était pas une très grosse entreprise, c'était une belle entreprise, mais peu connue. Fait que tu sais, dans ce temps-là, quand t'as une belle formule, t'as des bons employés, t'as des bons clients, mais c'est facile d'être un bon porte-parole pour ça, là.
Oui, puis tu peux, comme on dit, voguer sur ce succès-là, surtout qu'on n'était pas à l'époque des médias sociaux. Donc, c'est le service et le bouche-à-oreille qui fait souvent les choses.
Exact.
Je vous propose... Je vais vous proposer d'écouter une pièce musicale de Fred Pellerin qui s'appelle « De fils en père ». Je suis désolée, je suis distraite un peu parce que Maurice en studio a un chandail sur lequel est écrit « Je suis pas vieille, je suis vintage ». Et donc, de fils en père. Et après, j'aimerais vous entendre comment votre transfert d'entreprise a été reconnu là, par de nombreux prix, puis quelles grandes leçons vous tirez de ça. Et peut-être qu'on discute, là, en terminant, du changement de valeur en affaires que vous avez pu observer dans les 20 dernières années. Donc, on écoute cette pièce musicale, puis on se retrouve.
Merci.
Je suis le fils de plusieurs pères, d'un Saint Joseph qui était pas là. Je suis le fils de plusieurs pères et d'un poète qu'on enferma, d'un architecte de grand barrage, puis d'un soulon qui buvait pas, d'un doux d'une brute, puis d'un bûcheron, d'un coureur de bois, de jupons. Des pères, j'en ai mille. Je suis le fils de plusieurs pères, d'un joueur de quai aux mille abats. Je suis le fils de plusieurs pères, d'un joueur d'hockey, pas d'aréna, d'un homme trop fort pour être banquier, d'un autre que son ombre faisait peur, d'un grand menteur, d'un maître chanteur, rimeur de pommes ou de country. Des pères, j'en ai mille. Je suis le fils de plusieurs pères, d'un grand fumeur, un vrai dragon. Je suis le fils de plusieurs pères, d'un révolté en queue de peloton, d'un gars qui se tient à l'Inéa, celui qu'on regarde mais qu'on voit pas, d'un voyageur comme le pigeon, chauffeur de bus des quatre saisons. Des pères, j'en ai mille. Fils de plusieurs pères, vendeur de meubles et d'occasion. Je suis le fils de plusieurs pères, useur de corps et de canons, d'un faux curé, d'un vrai poltron, d'un astronaute dans son salon, d'un six pieds deux, d'un grand trapu, d'un va nu-pied, d'un revient tout nu. Des pères, j'en ai mille. Je ne suis pas venu au monde, c'est le monde qui est venu à moi. Je ne suis pas né d'hier, j'ai vu mouiller, mourir, neiger. Je n'ai pas choisi d'aimer. Père de plusieurs fils, des indécis, des convaincus. Je suis le père de plusieurs fils, des fois perdant, souvent perdu. Claireur de l'ombre, aimeur de jour, grands angoissés, joueurs de tour. Chasseur de sens et d'horizon, sans toi vire feu, sans religion. Des fils, j'en ai mille. Ils ne sont pas venus au monde, c'est le monde qui viendra à eux. Ils ne seront pas nés d'hier, hiver en être, neige et mouillé. Ils ne choisiront pas d'aimer. Je suis le fils de plusieurs pères, les uns des autres, même inconnus. Je suis le père de plusieurs fils, puis la roue glisse, puis continue. Je suis le fils de plusieurs pères, et que ça dure, et que ça tienne. Je suis le père de plusieurs fils, surtout que jamais ça finisse.
Fred Pellerin nous dit « Des pères, j'en ai eu mille, je suis le fils de plusieurs pères. » Mais là, il y a eu le père entrepreneur, le père papa et le grand-père. Est-ce que s'il y a, dans tout le succès de votre transfert d'entreprise, la raison pour laquelle ça a été aussi reconnu, c'est que vous avez fait les choses justement pour préserver ce lien-là?
Oui, il faut penser aussi, avant de le faire, il faut que tu sois prêt pour le faire. Pour être prêt pour le faire, faut que tu donnes vraiment du lousse quelques années avant. Parce que faut qu'il donne la confiance qu'il peut le faire. Mm-hmm. Mais il ne faut pas tu dire ben fais ci comme ça, devoir faire ci, devoir faire ça. Tu le laisses. S'il y a des pots cassés, tu les répares après. Mm. Il y en a, ils sont peu. Et ensuite de ça, là, tu dis, ça va aller. Ça va aller pour le mieux.
C'est toujours plus difficile pour le cédant. C'est ouais. souvent plus difficile, c'est pas toujours, c'est souvent plus difficile pour le cédant que pour le releveur.
Mm-hmm.
Parce que le cédant, c'est comme c'est de laisser aller certaines choses. C'est un lâcher-prise.
Ouais.
La personne qui va prendre le relève, il en prend plus. C'est jeune, il est dynamique, il a l'énergie. C'est une chose. Puis des fois, ça l'énergie bouscule, mais il faut respecter aussi les gens qui étaient après, avant ouais. nous.
Oui.
Puis les gens qui vont être après nous. Puis nous dans notre cas de relève, on a eu vraiment plusieurs prix. Puis ce qui a toujours été revenu là-dedans, c'est que, un, il y avait la pérennité de l'entreprise qui était respectée.
Oui.
C'est que c'était pas des objectifs personnels de un comme de l'autre du cédant ou de la relève. C'était vraiment à cœur la pérennité de l'entreprise. Puis aussi, c'est qu'on s'était pris avant. Des fois, on avait fait, une relève, c'est 5 ans avant oui. et 5 ans après.
Vous avez été accompagné aussi, vous êtes donné la peine d'avoir un consultant qui vous a accompagné, qui agissait aussi un peu peut-être comme une forme de neutralité?
Le consultant n'était pas... avec mon père, nous, on s'est toujours bien parlé, puis ça a toujours bien allé. Mm. Le consultant était vraiment pour assainir les conversations, puis atténuer aussi la situation, surtout avec les équipes, les fournisseurs, les clients,
oui.
rencontrer toutes les personnes clés. Moi et mon père, on s'est toujours bien communiqué, puis ça, c'est sûr que moi, à travers le travail, j'ai découvert un père aussi.
Ouais.
Il a travaillé toujours beaucoup dans sa vie. Puis, on, tu sais, à force de déjeuner, dîner, souper ensemble tous les jours, mm-hmm. pratiquement là, pendant les 5 premières années, on se voyait là, tu sais, tout le temps. Ben, on s'est vraiment plus connus. Puis on a un lien qui est extrêmement fort. Fait que le consultant, il nous a aidés dans la transition aussi à assainir les communications avec les gens autour de nous.
Mm-hmm.
Puis c'était très... c'est dans les très bonnes pratiques. Mais souvent, l'entreprise, les communications saines, prendre son temps, puis prendre le temps avant et après. Je pense que c'est les points importants là, qui nous ont aidés, là, puis qui souvent ont été soulignés comme c'est-à-dire les bonnes pratiques. Là.
Qu'est-ce que vous êtes aperçu, Hugo, que vous aviez acquis de votre père? Quel type de valeurs? Vous êtes-vous dit de tous ces repas-là? « Ah, mon Dieu, j'y ressemble plus que je pensais ou je suis plus différent que je pensais. »
Mais c'est sûr qu'on se ressemble. Plus je vieillis, plus je ressemble à mon père. On prend des photos ensemble, on a le même angle de tête, on a les mêmes ouvertures de yeux, des fois le même genre de sourire.
Mm.
Fait que c'est sûr qu'on se ressemble beaucoup physiquement. Dans les valeurs, on se ressemble, on est des travaillants. On est des gens, on est deux personnes très travaillantes. On est des gens de cœur, on est des gens honnêtes. On est des gens fiers aussi. C'est nos origines de Saguenay, on est des gens fiers, des bons travailleurs. Je pense des gens respectueux aussi. Nos équipes, tu sais, des gens qui sont ici, là, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans.
Mm-hmm.
Nos gens restent avec nous parce qu'on est du bon monde, comme on dit.
Je salue nos auditeurs sympa. Au Saguenay. Et Maurice, justement, en studio, vient de la région et ma mère aussi.
Ah oui.
Donc, on comprend l'esprit de fierté. je me demandais aussi, justement, puis là, peut-être ma question s'adresse d'abord à Daniel. Dans tout le côté branding de l'entreprise, il y a eu beaucoup, évidemment, une évolution dans le monde des affaires, mais aussi un changement dans les valeurs, dans le management, dans la gestion. Qu'est-ce que vous avez constaté à travers ces 20 dernières années-là comme changement et comment Hugo les développait, ces changements de valeurs?
Les valeurs, il ne faut pas toujours qu'ils soient rattachés monétairement. Il faut qu'ils soient rattachés, comme on a dit tout à l'heure, la fierté. La fierté de faire quelque chose, puis la fierté de dire, demain matin, je me lève, j'ai fait ma journée, à 5 heures, 6 heures, m'en va, demain c'est une autre journée, j'ai donné 100%, mais je ne peux pas donner 200%, puis j'ai 24 heures.
Mm-hmm.
Donc, la minute que tu as fait ta consensus avec tout le monde, demain, ça va être une autre journée.
On a toujours fait beaucoup confiance aux gens ici. Fait que c'est toujours été des valeurs familiales beaucoup au sein de l'entreprise. Puis c'est ça que les gens, toutes nos équipes, les gens avec qui on travaille, c'est comme une deuxième famille Café Expert. Les gens sont à l'aise. C'est les gens sont très autonomes et très respectés. Ils ont beaucoup d'espace de manœuvre et influencent aussi l'entreprise. Tout le monde va dans la même direction. C'est ça qui est agréable. Fait que la vision est assez claire. Puis la qualité, on est très tous fiers de notre travail qu'on établit. Fait que la qualité du travail, notre efficacité, ça, c'est vraiment, tous les gens sont vraiment proactifs au sein de l'entreprise. Donc, je pense que c'est là-dessus, c'est une continuité de nos anciennes valeurs ou des valeurs qui ont toujours été là. Fait qu'il n'y a pas vraiment eu un changement de valeur dans l'entreprise, plus que des valeurs traditionnelles fortes, que je dirais.
En fait, c'est ça, c'est une continuité dans les valeurs. C'est des valeurs qui ont traversé le temps. Ceci dit, vous dites votre père Daniel était un autodidacte. Ce que je constate de votre côté, vous êtes allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est quand même reconnue là, comme institution pour les entrepreneurs. Mm-hmm. Vous êtes membre du groupement des chefs d'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau à cet endroit-là qu'on apprend moins peut-être comme autodidacte ou qui vous amène dans la continuité, mais autrement, je dirais?
Bien, partager avec ses pairs, avec d'autres entrepreneurs. Moi, je suis un fan de café, puis je suis un fan d'entrepreneuriat. Fait que moi, parler café, je peux en parler tout le temps. Puis parler business, je peux en parler tout le temps. Fait que c'est sûr que d'aller à l'école d'entrepreneurship ou être au groupement des chefs, ça m'apporte énormément parce que je rencontre des gens passionnants, des gens qui sont passionnés par leur travail également. Au niveau de l'entreprise, là, ce que ça l'a amené aussi, ça l'a amené aussi des fois à me challenger plus parce qu'il veut pas. Mon père, c'est mon ami, c'est mon boss, c'est mon père, c'est mon mentor. Mais des fois, il y a une vision, tu sais.
Ouais.
De discuter avec d'autres visions, puis aller chercher d'autres visions ailleurs, ça stimule. Tu sais, mon père était contre l'idée de ma caféine. Puis moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Il dit, ça marchera pas. Puis finalement, quasiment chaque jour, depuis un an, il me dit, hey, une chance qu'on a ma caféine. Puis j'ai eu l'idée à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis aussi à côtoyer des amis entrepreneurs dans le groupement des chefs.
Je vais inviter nos auditeurs à aller visiter votre boutique qui est à Boucherville, sinon à aller sur le site Internet. C'est ça, je donnerai les adresses à la toute fin de l'émission. Je vous remercie de tout cœur de cet échange. C'est toujours bien de voir deux hommes comme ça avec une belle communication saine qui font prospérer des affaires. Merci beaucoup. Hugo et Daniel, d'avoir été avec nous.
Bien, merci pour l'opportunité.
À très bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Mais je me soigne. Athée, mais je me signe. Je m'enracine quand je m'éloigne. Ne connais de cime que les étoiles. Nouveau départ, jamais en fuite. Ce qui vient ensuite, ça paye en rire, en larmes ou en rouble. On se retrouve quand on quitte au double. Mais toi, tu restes bien assis. Je t'allais vérifier. En Allemagne, y'a pas juste des nazis. Aussi, de l'Afrique au fond de l'Asie. Comme ici, même affaire. Vrais amis, faux frères. Tu sais comment te taire, ben ça se passe. Pis ça se passe de commentaires. Ciel bleu, ligne rouge, marché noir.
Marché noir.
Mille couleurs.
Mille couleurs.
Même histoire.
Même histoire.
Anti-carrière, un papillon inspiration Henri Charrière. Je courrai à ma perte tant que j'ai encore du souffle. Je pousserai la réflexion au bord du gouffre. Je plongerai comme avion sur idées préconçues. Je me retirerai comme phallus vidé un peu confus. Je prends un billet vers l'été. Escale à Bruxelles, demain je suis en RDC. Parfum diesel, de misère astronomique. Dombolo sur poussière de politique. Servi chaud sur une feuille de bananier. Le poulet tu n'auras pas, le gros il fallait travailler. Y'a pas de job, y'a fuck all, paraît que ça va bien aller. On s'en colle et ça 300 000 par année. La misère, tu la paieras si t'as la somme. Elle t'attend dans un bordel en chantant mi corazón. Les yeux secs comme un rio desséché, ou comme une frange d'Amazonie déchirée. C'est pas un texte, c'est des photos d'ici c'était là. Prise hors piste, vu que dans le chemin je fitais pas. Loin du corps, loin d'une routine austère. Loin des spots, ta tour est un bol d'air. Chaque départ, un grand retour.
L'ignorance se bat à chacun de tes.
Tu t'en vas nulle part s'il n'y a pas de détour. Même couleur, même histoire.
Encore en vie et encore envie de crisser mon camp. Dresser mon camp au milieu du bois de la toundra que je décampe. En pays étranger, genre Gabon ou Canada. Tourner en rond, j'en peux plus. On manque jamais d'excuses ou de raisons pour rester perdu dans son propre salon. Mais si t'as la tête dans le cul, oublie l'horizon.
C'était Grand départ de David Goudreau avec Manu Militari et Louis-Jean Cormier de l'album Nouveau matériel, le quatrième album de David Goudreau. Un vrai bijou de poésie bourrue, tendre, éclairante, shakeante qui va vraiment au cœur du nerf de la vie. Et on reçoit cet être que j'ai connu d'abord à titre de porte-parole du mouvement Santé mentale. J'avais reçu la directrice Renée Ouimet à l'épisode du 7 juillet. Et Renée m'a dit, tu vas voir, en plus d'être brillant, il est tellement gentil. Bonjour David.
Bonjour, ma foi, c'est beaucoup de compliments, je suis un peu intimidée.
Ben moi, c'est quand j'écoute ce que vous faites que je suis intimidée. C'est d'une richesse, il y a tellement de portes ouvertes dans tout ce que vous faites, c'est vraiment fascinant. Puis vous êtes un être en arborescence, on dirait que votre art touche tellement de volets.
Ben, en fait, c'est toujours l'écriture, je touche à plein de trucs, mais c'est toujours le geste d'écrire d'abord. Je travaille comme parolier pour des amis comme le Dufaux Florence Kahn, entre autres. Parfois, je publie des recueils ou des romans ou je vais faire un projet d'album comme ça. Mais même si ça donne l'impression que je fais plein de choses, en fait, je fais un peu toujours la même chose qui est d'écrire. Mais après, ça existe sous diverses formes.
Bien, en fait, vous l'êtes de formation travailleur social. Donc, qu'est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez vous aidez à écrire de nouvelles vies? Comme travailleur social?
Ah, c'est une excellente question. Je ne sais pas, on ne pourrait pas demander aux clients parce qu'il faudrait briser la confidentialité, donc on n'ira pas là. Par contre, ce qui est clair, c'est que mon expérience de travailleur social inspire beaucoup, beaucoup ce que je fais comme artiste. C'est vraiment l'humain qui est au cœur de mes réflexions, la difficulté à être en relation, à communiquer. C'est vraiment, le nœud d'à peu près tous mes projets. Donc, je dirais que je suis vraiment un travailleur social qui écrit ou un écrivain qui profite de son expérience de travailleur social. Mais en tout cas, c'est clair que les deux sont très imbriqués, sont très liés ensemble.
Ben, en fait, j'ai vu que vous êtes même sauveteur de noyades.
Oui, ben ça, c'est un épisode particulier. Là. Ça, c'était plus comme citoyen, mais oui, il y a eu un moment assez exceptionnel dans ma vie où j'ai eu la chance d'aller aider quelqu'un en détresse. Et je tiens à dire que c'est quand même un travail d'équipe parce que c'est des enfants qui m'ont alerté, qui sont venus me chercher puis qui m'ont permis d'accomplir ce geste citoyen qui est un peu sous l'adrénaline. Là, donc, j'ai pas tant de mérite que ça, mais quand même.
Bien, en fait, sauver de la noyade, je me dis que comme porte-parole du mouvement santé mentale, c'est un peu ce que vous faites, d'aider des gens à les sauver de la noyade d'émotions, qu'ils ont de la difficulté là, à nager à travers tout ça.
Oui, mais en fait, comme porte-parole, c'est vraiment l'idée, c'est de faire connaître la ressource, puis tous les organismes qui sont représentés par le mouvement Santé mentale Québec. Donc, c'est 13 organismes au niveau provincial. Mais le travail d'intervention se fait vraiment là-bas par les professionnels. Mon rôle, c'est vraiment plus de rappeler que hey, tout le monde on a une santé mentale, on devrait s'en préoccuper. Pas seulement les gens qui sont en crise, pas seulement les gens qui, euh, qui ont un suivi psychiatrique, ça concerne tout le monde. Mais d'ailleurs, on a une espèce d'engouement en ce moment pour la santé physique.
Ouais.
Mais je trouve qu'on n'a pas l'équivalent à ça au niveau de la santé mentale. Le jour où on va avoir autant de centres d'entraînement pour la santé mentale, autant de thérapies, autant de démissions autour de la santé mentale qu'il y en a autour de la santé physique, on va avoir fait un grand pas.
Bien, en fait, moi, j'ai eu un coup de cœur la première fois que j'ai rencontré la directrice Renée Ouimet, parce que justement, elle ne parle pas de maladie mentale. Elle parle vraiment de santé mentale, de tout ce qu'on peut faire pour la cultiver.
Ben oui, absolument, absolument. Puis Renée, je pense qu'elle fait un travail incroyable pour ça. Puis c'est vraiment l'objectif, je pense, aussi du mouvement Santé mentale Québec, d'être beaucoup plus dans un côté promotion d'une bonne santé mentale que curatif ou intervention de crise, là.
Absolument. Vous disiez tout à l'heure que c'est des enfants qui vous ont alerté et j'ai envie de parler de l'épisode où c'est plutôt, en fait, c'est un adolescent qui vous a alerté. Vous avez répondu à une proposition d'une étudiante de cégep pour réaliser l'un de vos vidéoclips. C'est intéressant, ça?
Oui, c'est très particulier. En fait, c'est une étudiante de cégep, mais aussi, et peut-être d'abord, une poète.
Oui.
En fait, c'est une jeune qui était ado au moment. Là, maintenant, je pense qu'elle a 18 ans, donc on peut dire une jeune adulte, mais au moment de faire la demande, elle était encore plus jeune, puis elle avait un coup de cœur pour la chanson « Pleurer des soleils » sur l'album « Le nouveau matériel ».
Tellement.
Puis elle m'a demandé si elle pouvait en faire un clip, en fait, avec ses amis, des amis qui sont cinéastes, on organiserait quelque chose autour de ce clip-là. Puis moi, j'ai seulement dit oui. En fait, j'ai approuvé l'idée. Je trouvais que c'était audacieux de sa part. Puis je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, je vous fais confiance. Puis le résultat est plutôt heureux.
Absolument, absolument. Mais je trouve ça beau de votre part, justement, comme projet intergénérationnel, d'écouter cette créativité-là et cette personne qui vous témoigne que votre œuvre a fait justement œuvre utile pour elle, que ça l'a touchée, puis vous lui donniez la possibilité d'exprimer sa créativité?
Bien, j'ai l'impression que, en tout cas au niveau artistique, puis même dans la vie de façon générale, on avance beaucoup par rencontre.
Oui.
Et que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont été généreux avec moi, qui m'ont permis de développer mon art, de rayonner à des moments importants de ma vie. Puis si je peux le faire à mon tour, ben, c'est une façon aussi de redonner
au suivant. Bien, vous parlez de rencontres. J'ai lu, entre autres, que vous avez un grand amour platonique avec une invitée que nous avons reçue le 23 février dernier, Kim Thuy.
Oui, Kim Thuy, c'est une grande amie à moi. Bien, c'est justement... une des personnes qui a été extrêmement généreuse avec moi, qui m'a permis de faire de nombreuses rencontres au niveau artistique, qui a cru en moi, qui d'ailleurs m'a mis en contact avec mon éditrice pour mes romans. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de gratitude.
Roman, doit-on rappeler à nos auditeurs qui figure sur la liste des suggestions de lecture de notre premier ministre François Legault?
Il y a du goût. Il faut dire, ça prend une minute qu'il y a du goût. Très bonne suggestion.
Je suis d'accord.
Il y a d'autres suggestions qui ont fait un peu plus scandale,
oui.
Mais avec celle-là, je suis tout à fait à l'aise.
Oui, je partage aussi votre avis. Il y a une initiative dernièrement qui a fait aussi beaucoup jaser, puis il y a peut-être des gens qui, malheureusement, ne vous connaissaient pas encore, mais qui, là, vont se rattraper. Parlez-nous de cette lettre aux petits gars qui seront de grands hommes.
Oui, ben en fait, c'est la chance que j'ai, c'est d'avoir une chronique régulière à l'émission Bonsoir, bonsoir, où je présente des lettres d'amour, en fait. Et la première a eu un retentissement assez important. Donc, c'était cette idée d'écrire par rapport à la vague de féminicide qui m'inquiétait beaucoup, puis d'avoir un discours d'homme à homme, puis de m'adresser justement aux petits gars qui deviendront des hommes. Puis qui peuvent et qui doivent devenir des hommes sans tomber dans la violence.
Oui.
Donc, mon message était vraiment à ce niveau-là. Puis, bon, ça a eu un retentissement plus grand que je pouvais l'imaginer. On a plus de 4 millions de vues. Puis,
oui.
Donc, ça a fait beaucoup réagir. Et en même temps, tant mieux si ça a pu faire réfléchir. Je sais, moi, qu'il y a eu des policiers qui sont intervenus
sur les lieux d'un des féminicides qui m'ont contacté, un des fils aussi d'une victime. Donc, je sais que j'ai rejoint des gens qui étaient vraiment au cœur de la tragédie. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui semblent avoir réfléchi ou en tout cas qui ont été brassés par ce texte-là. Puis qui m'ont réécrit pour me dire finalement qu'il y avait eu un impact. Je pense que tout artiste espère pouvoir comme ça rejoindre, être utile finalement. T'sais, au-delà, je pense que l'art, ça suffit. Écrire un bon texte, c'est déjà exceptionnel. Tant mieux quand ça se passe. Mais si en plus, ça peut aider à faire une forme de sensibilisation, de prévention, ben c'est encore mieux.
Absolument. Moi, j'ai deux garçons, un de 17 et de 27. Je leur ai envoyé votre texte, puis on en a parlé ensemble. Et ça les a bouleversés, puis ça nous a amené toute une discussion via Zoom. Mais vraiment,
La nouvelle réalité.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça se peut que cette violence-là peut originer, entre autres, d'un manque de mots, de ne pas justement savoir s'exprimer ou de... Puis là, je reviens un peu à votre rôle de porte-parole, mais de... La campagne en ce moment, c'est ressentir, c'est recevoir un message, de ne pas être capable de faire le tri dans nos émotions.
Ben absolument. De toute façon, moi, je crois beaucoup à ce dicton qui dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, tout ce qu'on n'arrive pas à extérioriser d'une façon ou d'une autre, on reste pogné avec, ça peut nous pourrir dans l'âme, y compris les secrets, les douleurs, les blessures qui vont amener à la violence. Au moment où on a l'impression de perdre le contrôle de sa vie, où on n'a plus de pouvoir, où on a de la colère, ben c'est correct de ressentir de la colère, puis à la limite, c'est correct même de ressentir de l'agressivité. C'est la violence, c'est l'expression de cette colère-là qui doit être condamnée, finalement. Donc, oui, à partir du moment où on apprend aux gens, notamment aux garçons, à nommer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, à utiliser des mots plutôt que des claques, des coups, des armes, bon, on est en train de faire de la prévention, clairement.
Puis parlant de ce qui s'imprime, vous avez fait, je crois, un livre en 2016, hein, Testament de naissance, sur le thème de la paternité.
Oui, exactement. C'est en fait tout un recueil de poésie autour de la naissance de ma fille. Ouais. Donc, c'est un recueil en trois temps. Donc, c'est ma grossesse en tant que père, notre accouchement et ta vie devant pour l'enfant. Donc, je le dis avec un point d'humour. Il y a de l'humour aussi dans le recueil, mais ça a été vraiment des réflexions assez poignantes. Puis il y a eu des complications aussi à la naissance de ma fille, tout ça. Donc, ça a été thérapeutique même pour moi d'écrire ce livre-là, clairement.
Bien, justement, dans la veine thérapeutique, dernièrement aussi, quand je disais, cher auditeur, que c'est un artiste complet... Et il a fait dernièrement un livre pour enfants. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre pour enfants, La réparation de mes parents?
Oui, ben oui, c'est pour les enfants, je dirais, de 3 à 8 peut-être, ou 3 à 9.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un livre jeunesse, un album jeunesse avec France Cormier à l'illustration.
Magnifique.
C'est un super travail, oui, vraiment, elle complète bien le texte et propos. Et ça va être en librairie mardi. Donc,
ah oui!
Tout chaud. Oui, c'est encore dans les caisses en ce moment. Donc, ça va paraître mardi. Puis, d'ailleurs, on fait un lancement à Sherbrooke le 31, à la librairie de Verdun le 2. Puis après, probablement, là, il va y avoir des activités autour des salons du livre dans les mois à venir, autour de ce premier livre jeunesse pour moi, mais qui a été vraiment une très belle découverte, une belle expérience. J'ai beaucoup aimé... le travail d'équipe, puis le fait de m'adresser aux enfants aussi, c'est une écriture qui est vraiment différente, en fait.
Ouais.
Qui ressemble plus à l'écriture d'un poème. Chaque phrase compte. On est dans un texte court. On veut travailler avec les images aussi, essayer de parler de choses très concrètes, mais sans être frontales. Donc, on a un peu la même approche que le poème.
Donc, voilà. Vous avez continué votre œuvre, votre mission de travailleur social, mais cette fois-ci avec une toute jeune clientèle, peut-être en espérant que justement, en leur apprenant à communiquer, à voir les bons mots très jeunes, ben, ça va éviter justement ces dérapages-là plus tard.
Ben, on le souhaite, c'est ça. Puis en même temps, la réalité, le livre, c'est la réparation de mes parents, c'est sur la séparation. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de séparations dans la dernière année, donc ça peut aussi être un livre utile, oui, pour que les enfants puissent nommer ce qu'ils vivent, mais même pour les parents qui puissent aborder le sujet avec leurs enfants de façon aussi ludique, parce que c'est un livre que j'ai voulu quand même plein d'humour. Mm-hmm. Et voilà.
Il y a une trame magnifique dans tout ce que vous faites. On dirait que tout est relié, tout s'explique, tout se tient. Et je dois dire à René Ouimet qu'elle avait raison. Non seulement vous êtes brillant, mais vous êtes effectivement très gentil.
Ah ben, c'est gentil. Merci. Merci à vous, j'apprécie.
Merci encore, David Goudreau, pour ce court entretien. J'aurais pu vous garder toute l'heure.
On se reprendra avec plaisir.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, on surveille la réparation de mes parents en librairie. En fait, ce mardi, nous sommes le 1er juin, quand l'émission sera diffusée. Vous êtes en librairie et on va aller se procurer.
Génial. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Au revoir.
Prends le temps. Le temps s'écoule. S'écoule l'avenir. Et l'avenir, c'est court.
Prends ma main comme je tenais la tienne. S'écoule le temps. Coule dans nos veines. L'avenir, c'était hier, pour les souvenirs, c'est plus la peine.
Tu te souviens de tout, mine de rien, les années folles, les années filent, et vite, même l'âme en peine, la tête pleine de souvenirs. À perdre le souffle, tu échappes à un éclat de rire. Toutes les raisons du monde d'embrasser la vie, encore d'ignorer la mort aussi.
Mémoire.
Tu te souviens, mine de rien. Folle, les années filent, et vite l'âme en peine, la tête pleine de souffle, un éclat du monde. Embrasser la vie, encore ignorer la mort aussi.
Prends ma main comme je tenais la tienne. S'écoule le temps, coule dans nos veines. L'avenir, c'était hier, pour les souvenirs, c'est plus la paix, plus la paix.
Tu te souviens de rien. Les années évitent l'âme, en peine de souvenir, à perdre raison, la vie ignorée, la mort aussi. Tienne, s'écoule le temps, coule dans nos veines.
Le temps coule dans nos veines.
L'avenir, c'était hier.
L'avenir, c'était
pour les souvenirs.
Pour les souvenirs.
C'est plus la peine.
La peine.
Plus la peine.
Mémoire, paroles de David Goudreau, chantées avec Luce Dufault. On a parlé des enfants en toute fin d'entrevue avec David et je voulais que vous voyiez à quel point c'est un artiste qui couvre large dans les étapes de la vie parce que Mémoire, c'est une chanson qui nous touche justement au moment où l'avenir c'était hier et où les souvenirs s'effacent tranquillement. Donc, c'est un album vraiment magnifique, nouveau matériel qui couvre tous ces moments de la vie. Et je me dis, lorsque les souvenirs commencent à s'effacer, ben, il faut en créer des nouveaux. Et c'est d'ailleurs un projet pour lequel David a été porte-parole. Le projet s'appelle « Rêver pour créer ». C'est une initiative de l'Institut du Nouveau Monde, soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon. Et ça a été une récolte de rêves. De gens de tout âge, mais entre autres 75% je crois des jeunes de moins de 20 ans, pour rêver et créer la société québécoise de 2040. Donc, je vous invite à aller voir, c'est rêverpourcréer.ca. Vous allez retrouver toutes sortes de textes, un bouquet de textes, et dont un que j'ai bien aimé, qui est un des premiers, qui est « T'es-tu game de changer de game? » qui est écrit par une femme de mon âge et plein d'autres textes de jeunes. Très, très, très touchant pour rêver mieux. Et rêver mieux, c'est d'ailleurs la chanson que je nous ai choisie pour boucler cette 48e émission, Rêver mieux, de Daniel Bélanger.
Tu me demandes qui je suis. Je suis de question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? See.
facile dans ma tête. Je pouvais dormir et peut-être rêver mieux.
Nos invités de cette semaine, Hugo Bouchard et son père Daniel Beaulieu de Café Expert. Je vous invite à aller voir macaféine.ca si vous êtes un fan de café, vous allez saliver. Également davidgoudreau.org, E-A-U-L-T. Un grand merci à Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. On réécoute les épisodes sur canalem.vuesetvoix.com le jeudi midi à CKVL, Spotify, Apple, Google. Et je vous souhaite une semaine magnifique, merveilleuse, en santé. Je vous aime. Merci d'être là. À bientôt.